Chapitre 5. Le colonel Feldman Kassad suit Brown Lamia et le père Hoyt dans la direction du tombeau de Jade à travers la tempête de sable. Il a menti à Lamia. Sa visière infrarouge et ses détecteurs fonctionnent correctement malgré les décharges électriques qui grésillent dans l'atmosphère autour de lui. Il lui a semblé que sa meilleure chance de tomber sur le Gritch était de suivre ses deux compagnons. Il se souvient du temps où il chassait le lion des montagnes sur Hébron. Il fallait attacher une chèvre à un piquet et attendre. Les données en provenance des détecteurs qu'il a installés aux abords du camp défilent en clignotant sur son écran tactile et forment un murmure continuel dans son implant. Il a pris un risque calculé en abandonnant là-bas Weintraub et sa fille ainsi que Martin Silenus et le consul, endormis sans aucune autre protection que les alarmes et les défenses automatiques. Mais il doute sérieusement qu'on puisse arrêter le Gritch de quelque manière que ce soit. Ils ne sont rien de plus, tous, que des chèvres attachées à un piquet et qui attendent. Lui, c'est cette fille, le fantôme appelé Moneta, qu'il est décidé à retrouver avant de mourir. Le vent a encore forci. Il hurle aux oreilles de Kassad, réduisant à zéro la visibilité, crépitant contre son armure d'impact. Les dunes sont illuminées par les décharges électriques. Des éclairs en miniature entourent ses bottes et ses jambes, tandis qu'il avance à grands pas pour ne pas perdre de vue la signature thermique de Lamia. Les informations affluent du père Soc de cette dernière. Mais les canaux fermés du père Hoyt indiquent seulement qu'il est vivant et qu'il continue d'avancer. Kassad passe sous les ailes déployées du sphinx. Il en sent le poids invisible au-dessus de lui, en suspens, comme le talon d'une botte de géant prête à l'écraser. Puis il descend dans la vallée, repère le tombeau de Jade à son absence d'émission thermique ou infrarouge et à ses contours froids. Hoyt pénètre en ce moment même dans le demi-cercle qui marque l'entrée. Lamia le suit à une vingtaine de mètres. Rien d'autre ne bouge dans toute la vallée. Les détecteurs du camp, cachés par les ténèbres et la tempête derrière Kassad, indiquent que Sol et son bébé sont en train de dormir et que le consul est couché, éveillé mais immobile. Il n'y a absolument rien d'autre dans le secteur. Kassad retire la sécurité de son arme et s'avance à pas rapide sur ses grandes jambes. Il donnerait cher en cet instant pour disposer d'un sat de repérage et de fréquences tactiques complètes au lieu d'avoir à se contenter d'une image partielle d'une situation fragmentée. Il hausse les épaules à l'intérieur de son armure d'impact et continue d'avancer. Brown Lamia a du mal à franchir les 15 derniers mètres qui la séparent du tombeau de Jade. Le vent a maintenant la force d'une véritable tornade et la renverse par deux fois dans le sable. Les éclairs sont à présent en grandeur nature. Ils fendent le ciel de leurs gigantesques zigzags qui illuminent le tombeau fluorescent devant eux. Deux fois, elle essaie d'appeler Hoyt, Kassad ou les autres au camp, certaine que personne ne saurait dormir au milieu de tout ce déchaînement. Mais son père Soc et ses implants ne reçoivent que des parasites. Leur circuit à large bande ne capte que des bruits aberrants. Après sa deuxième chute, Lamia se redresse sur les genoux et regarde devant elle. Elle n'aperçut aucun signe de la présence de Hoyt, à part la silhouette fugace qu'il lui a semblé entrevoir au début, se dirigeant vers l'entrée en forme de demi-cercle. Lamia serre dans son poing l'automatique de son père et se remet debout. Elle se laisse pousser par le vent sur les derniers mètres. Elle s'immobilise devant l'entrée voûtée. Peut-être sous l'effet de la tempête ou de quelque autre phénomène électrique, le tombeau de Jade luit d'un vert phosphorescent et bilieux qui colore les dunes et donne à ses poignets et à ses mains un aspect d'outre-tombe. Lamia fait une dernière tentative pour communiquer avec quelqu'un sur son père Soc, puis elle entre dans le tombeau. Le père Lénard Hoyt, de la Compagnie de Jésus, vieille de 1200 ans, résident du Nouveau Vatican sur Passem et serviteur loyal de sa sainteté le pape Urbain XVI, est en train de hurler des obscénités. Hoyt est perdu et il souffre de manière atroce. Les vastes chambres attenant à l'entrée du tombeau de Jade se sont rétrécies. Le corridor s'est enroulé tant de fois sur lui-même que le père Hoyt est maintenant égaré dans une enfilade de catacombes aux parois phosphorescentes, formant un labyrinthe qui n'a plus aucun rapport avec ce qu'il a visité le jour, ni avec les cartes qu'il a laissées derrière lui. La douleur avec laquelle il vit depuis des années, depuis que la tribu des Bicura lui a implanté les deux cruciformes, le sien et celui de Paul Duret, La douleur menace maintenant de le rendre fou, tant elle est devenue intense. Le couloir se resserre encore. Lennart Hoyt pousse un hurlement dont il n'a même plus conscience. C'est à peine s'il a conscience des horreurs qu'il hurle. Il n'a plus prononcé de tels mots depuis son enfance. Il veut être libéré. Libéré de la douleur. Libéré du fardeau de la personnalité ADN du père Duré. Libéré du fardeau de l'âme du père Duré, qu'il doit transporter avec lui, dans le parasite en forme de croix incrustée dans son dos. Libéré aussi de la terrible malédiction de sa propre résurrection maudite par le cruciforme de sa poitrine. Tout en hurlant, cependant, le père Hoyt sait très bien que ce ne sont pas les Bikura, à présent disparus, qui l'ont condamné à de telles souffrances. La tribu des anciens colons, ressuscités tant de fois par leur cruciforme qu'ils en sont devenus débiles, n'était qu'un simple véhicule pour leur ADN et celui de leurs parasites. Ils étaient en réalité des prêtres, eux aussi, des prêtres du Gritch. Le père Hoyt, de la Compagnie de Jésus, a apporté avec lui un flacon d'eau bénite consacré par sa sainteté, des espèces eucharistiques sanctifiées par une grand-messe solennelle, et un exemplaire de l'ancien rite sacerdotal de l'exorcisme. Ces objets, auxquels il n'a plus pensé jusqu'à maintenant, sont scellés dans une bulle de perspex au fond d'une poche de sa cape. Il trébuche contre un muret et hurle de nouveau sa douleur. La souffrance qu'il ressent maintenant est indescriptible. L'ampoule d'ultramorphine qu'il s'est injectée il y a seulement un quart d'heure n'agit plus. Il hurle et arrache ses vêtements, déchire sa lourde cape, sa tunique noire et son col romain, son pantalon, sa chemise, ses sous-vêtements, jusqu'à ce qu'il se retrouve tout nu, frissonnant de douleur et de froid, dans les corridors phosphorescents du tombeau de jade, hurlant des obscénités dans la nuit. Il s'avance en chancelant, trouve une ouverture et débouche dans une salle plus vaste que toutes celles dont il a le souvenir après les recherches effectuées dans la journée. Les murs nus et translucides se dressent sur 30 mètres de haut, de part et d'autre d'un vaste espace libre. Il trébuche de nouveau, continue à quatre pattes, et s'aperçoit que le sol est devenu presque transparent. Sa vue plonge, sous la mince membrane qui supporte son poids, au fond d'un puits vertical de 1000 mètres ou plus, d'où montent des flammes qui éclairent maintenant la salle d'une pulsation rouge-orange venue de tout en bas. Hoyt se laisse rouler sur le côté et éclate de rire. Si c'est une image de l'enfer fabriquée à son intention, c'est un fiasco. L'idée qu'il se fait de l'enfer est plus tactile que visuelle. C'est la douleur qui se déplace en lui comme des lames de rasoir ébréchées à l'intérieur de ses veines et de ses boyaux. C'est aussi le souvenir des enfants affamés dans les bidonvilles d'Armagast et le sourire des politiciens qui envoient les jeunes à la mort dans les guerres coloniales. L'enfer, pour lui, c'est de savoir que son Église est en train de mourir lentement sous ses yeux, qu'elle mourait déjà du vivant de Duré, et que ses derniers fidèles constituent une poignée de vieillards remplissant à peine quelques travées dans les énormes cathédrales de Passem. L'enfer, c'est l'hypocrisie qui consiste à continuer de dire la messe du matin avec, à côté du cœur, l'obscénité maléfique du cruciforme animé de sa pulsation propre. Il y a un soudain courant d'air chaud, et il voit toute une section du sol qui s'ouvre, créant une trappe donnant sur le puits béant sous lui. La salle s'emplit d'une puanteur de soufre. Hoyt éclate de rire devant ce nouveau cliché, mais son rire, en quelques secondes, se transforme en sanglots. Il est maintenant à genoux, et il essaye d'arracher de ses ongles sanglants les cruciformes incrustés dans son dos et sur son torse. Les parties saillantes en forme de croix semblent briller d'une lueur propre dans la pénombre rougeoyante. Il entend le ronflement des flammes au-dessous de lui.
« Hoyt !»
Secoué par les sanglots, il se tourne vers la femme, Lamia, dont la silhouette se découpe dans l'entrée. Elle fixe un point derrière lui, en braquant un revolver ancien, les yeux écarquillés. Le père Hoyt sent la chaleur intense derrière lui. Il entend le rugissement d'une fournaise lointaine, mais par-dessus cela, il entend aussi, soudain, un glissement sourd de métal sur la pierre, comme des pas. Sans cesser d'agripper les vergetures sanglantes de sa poitrine, il se retourne, s'écorchant les genoux sur le sol. Il voit d'abord l'ombre, 10 mètres de haut, tout en angles saillants, hérissé de piquants, de lames et de jointures. Puis, à la faveur de la lumière pulsante sur un fond d'ombre noire, il voit briller ses yeux au sang, aux 1000 facettes. Ils sont rouges comme un laser à travers des rubis, et ils éclairent plus bas le collier d'épines d'acier et le torse de vif argent qui reflète les ombres et les flammes. Brown Lamia décharge l'automatique de son père. Les détonations résonnent, sèchent, par-dessus le grondement de la fournaise. Le père Lennart Hoyt pivote vers elle, la main levée.
« Non ! Ne faites pas ça !»
hurle-t-il.
« Il exauce un vœu ! Il faut que je lui présente !»
Le Gritch, qui se trouvait à un endroit situé à 5 mètres d'elle, se trouve soudain à un autre endroit, séparé de Hoyt par moins d'une longueur de bras. Lamia cesse de tirer. Hoyt lève la tête, aperçoit son propre reflet dans les chromes à moitié noircis par le feu de la carapace du monstre. Puis il voit quelque chose d'autre, à cet instant, dans le regard du Gritch, et la créature disparaît. Il n'y a plus rien. Le père Hoyt lève lentement la main, se touche la gorge, presque machinalement, contemple un instant la cascade de lumière rouge qui lui couvre les mains, le torse, le cruciforme, le ventre. Il se retourne vers le seuil pour voir Lamia, les yeux toujours écarquillés de terreur, toujours sous le choc, qui ne regarde plus le Gritch maintenant, mais lui, le père Hoyt de la Compagnie de Jésus, et il prend conscience en cet instant que la douleur a disparu. Il ouvre la bouche pour dire quelque chose, mais il n'en sort rien d'autre que du rouge, encore du rouge, une cascade de rouge. Il baisse les yeux et s'aperçoit pour la première fois qu'il est nu. Il voit le sang couler comme si quelqu'un avait renversé, au-dessus de lui, un seau de peinture rouge. Puis tout s'assombrit tandis qu'il tombe, la tête la première, vers le sol et dans les profondeurs lointaines qui s'ouvrent au-dessous de lui.